Bonjour, c'est une vie, une œuvre. Il y a un an, en septembre 2018, nous quittait Rachita. Rachita, 1958-2018, chanteur franco-algérien, était une figure emblématique du rock alternatif des années 80-90. Un artiste rare vivant avec la passion et la rage chevillées au corps et au cœur. Pionnier de mélanges musicaux inédits, il refusait les étiquettes et chantait pour aller au bout de ses envies, de sa folie, de sa vie. Un an après sa disparition, paraît « Je suis africain », un album posthume coécrit et réalisé par Thomas Fetterman. Une chanson phare sur l'album ? Oui, celle qui lui donne son titre « Je suis africain ». Le message est très beau, joyeux, c'est positif. Le message, c'est qu'on est tous sur la même planète et on vient tous de l'Afrique, dit son fils Liès. Africain de New York au Congo, Dieu a la même peau, y chante Rachita. Tout de suite, Péroline Barbé et Vincent Deck signent une vie, une œuvre consacrée à Rachita.
Rachita, chanteur crossover.
Quand j'ai commencé à faire la musique, c'est vrai, c'était attiré par l'injustice. C'est-à-dire que pourquoi il y a des personnes, des individus qui n'ont pas du tout la même justice ou le même traitement que les autres. Pour moi, le mot justice est quelque chose de très très important parce que c'est ce qui fait la base de tout. C'est-à-dire qu'un monde sans justice, c'est un monde qui va à la dérive, c'est un monde de misère, c'est un monde de guerre, c'est un monde où les droits de l'homme n'existent pas, etc. Donc, ma bataille était là. D'ailleurs, pour preuve, ma première chanson, quand j'ai commencé à chanter avec Art de Séjour, c'était une chanson qui s'appelait Zoubida, qui parlait de l'injustice à l'intérieur de nos traditions, c'est-à-dire l'injustice faite aux femmes. C'est comme ça que j'ai commencé à faire la musique.
Au pied des HLM de sa ZUP, Rachita promène sa fine silhouette, ses longues boucles brunes et son débardeur échancré. D'où vient-il Rachid, avec cette insolence dans le regard et cette impatience? De Sig, ce petit village de la plaine d'Oran en Algérie, où enfant tout le monde l'appelle Zemzem. De l'Épanche sur Vologne, dans les Vosges, où il grandit et se fait les poings dans les baloches du coin. De Rieux-la-Pape, cette ville nouvelle de la banlieue nord de Lyon, où sa famille vient tout juste d'aménager. Rachid a 20 ans. Il rêve d'échapper à l'usine et aux cadences infernales de la chaîne. Il vient de rencontrer les frères Amini dans l'usine Thermix, où il finit un intérim. Ensemble, ils montent un groupe et répètent dans un grenier. Ils ne sont pas au point musicalement, mais ils ont des idées. Ils n'ont peur de rien. Lui écrit des paroles et s'improvise chanteur, avec sa voix rauque et rageuse, sa voix fumée. Ils veulent percer le mur invisible, briser le silence des pères et faire résonner leur voix dans l'espace public, en arabe. Rachid et Art de Séjour, c'est aller vite. C'était puissant. Ça a brassé tant de choses nouvelles.
Rachid, Mokhtar, Jamel, Mohamed et Jérôme se sont rencontrés à Villeurbanne il y a 2 ans. Depuis quelques mois, ils ont tout abandonné pour la musique. Leur musique, un rock mélodique qui parle des immigrés, de leurs difficultés et de l'intolérance. Art de Séjour, c'est le nom qu'ils ont choisi pour leur groupe, avec humour. Même s'ils sont préoccupés par tous les drames qui secouent le monde musulman, ils puisent leur inspiration dans le quotidien des banlieues.
Il y a des gens, par exemple, qui ne savent pas ce que c'est... l'immigration, par exemple, des fois, quand on dit Vaulx-en-Velin, ils ont l'impression que ça se trouve au bout du monde, alors que Vaulx-en-Velin, c'est à 10 minutes de Lyon. Bon, ça, c'est ces côtés-là qu'on essaie de transposer ici à Lyon et puis un peu dans toute la France.
Je veux dire tout ce que les autres voient tout bas.
La chose est très simple. Au mois de novembre, en 78, j'habitais à Rieux, Rachid aussi habitait à Rieux. Et moi, je faisais du stop à l'arrêt de bus, parce qu'il y avait grève de bus.
Mohamed Amini, guitariste du groupe Art de Séjour.
Et Rachid m'a rejoint, on faisait du stop tous les deux. Et là, puis il m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire en ville? Je dis, moi, j'ai un local de répète, je vais jouer de la musique, quoi. Puis il m'a accompagné, Et après, ils savaient quel jour j'y étais, ils venaient. Puis ils chantaient, puis c'est tout, on ne se posait pas de questions. On avait un petit répertoire, et petit à petit, lui, il improvisait, puis ça se greffait les choses petit à petit. Et après, quand on cherchait un nom, on n'avait pas trouvé un nom. Dans un café, au moment de payer, quand je voulais payer à note, j'ai ma carte de séjour qui tombe du portefeuille. Et là, ça nous a fait tilt. On se posait pas de questions. Moi, personnellement, je voulais faire de la musique. J'étais branché rock. Et puis à ce moment-là, il y avait le mouvement punk. Sex Pistols, Clash, Siouxsie, Hans Banzès, Magazine, tous ces groupes-là. Et moi, je me suis un peu inspiré de leur histoire. Je crois qu'ils revendiquaient qu'ils pouvaient jouer sans être des virtuoses. J'ai oublié un peu Bob Marley, le reggae. Parce qu'à cette époque-là, le reggae faisait un boom. Et tout le temps, on arrive en Lyon, on écoutait du reggae, on faisait du basket sur les terrains de basket avec le gros poste, en mettant du Bob Marley, Peter Tosh. Et entre-temps, il y a eu le téléphone qui est venu, chante du rock en français, tout ça. Donc nous, c'est à ce moment, je me suis pas dit, nous, on va chanter en arabe.
J'ai connu Rachid, j'étais enfant. J'étais enfant, j'avais un peu moins d'une dizaine d'années.
Naïma Yahi, historienne.
À mon échelle personnelle, c'était un choc parce que c'est la première fois que je voyais un arabe faire de la musique qui n'était pas Oum Kalsoum ou Farid Al-Atrash, c'est-à-dire ce que écoutaient mes parents dans leur cuisine ou dans leur voiture. Et nous, la musique arabe, ça ne nous intéressait pas du tout. Mais alors, pas du tout. On trouvait ça extérieur à nous. Et quand on a vu Rachid avec sa dégaine, un beau jeune homme avec ses perfectos et ses sarouels, c'est plus de mélange étrange entre ici et là-bas, et qui faisait de la musique rock qui nous plaisait, mais qui chantait dans l'arabe de nos parents. Moi, en tout cas, je me suis un peu réconciliée avec le fait d'être aussi arabe. Et j'ai des grands frères, c'est encore plus fort pour eux. Et ils avaient un gars qui ressemblait, en fait. Espèce de rocker arabe, un peu déglingos, fils d'ouvrier, qui mixait toutes ces cultures-là, toutes ces influences-là. Et c'était plus une tare d'aimer la musique occidentale, le rock, le reggae, toutes ces musiques un peu des quartiers, tout en assumant un arabe de la maison, parce que son arabe, c'est un arabe dialectal, et nous, on comprenait rien, Oum Kalsoum, on comprenait pas ce qu'elle chantait, en fait. Et lui, il parlait un arabe de la maison. Et du coup, on disait, mais c'est lui, c'est nous, et nous, c'est lui. Et je pense que ça a été ça pour moi. Nous, le gimmick, le nom du groupe nous faisait sourire. Parce que nous, on n'en sortait pas de ces questions de carte de séjour, permis de travail, de papier d'identité. Faut noter qu'au début des années 80, nous, on vivait dans les cartons. Nos parents, ils disaient, on va rentrer. Moi, j'ai le souvenir que mon père, il disait, c'est fini, il n'y a pas de travail, on va rentrer chez nous. Nous, on ne comprenait pas ça. On disait, rentrer chez nous, je ne connaissais même pas l'Algérie. Je veux dire, on était petits, à l'école, on donnait des cours d'arabe, on nous expliquait qu'on allait rentrer en Algérie. Bah, Rachid, c'était presque une façon de dire, bah non, ici c'est chez nous parce que on n'est pas là-bas, on n'a rien à voir avec là-bas, c'est là-bas qu'on connaissait pas en fait. Et puis on voit des gars comme lui, qui est un extraterrestre comme nous, quoi, espèce d'ovni hybride. C'est un peu ça moi que j'ai comme souvenir.
J'ai fréquenté Rachid à une période où lui-même fréquentait pas mal les pentes, à la Croix-Rousse, à Lyon, une époque pré-carte de séjour, ou pendant qu'il commençait à monter ce groupe avec Mohamed et Mokhtar, tout début des années 80, quoi.
Robert Lapassade, chanteur, journaliste et ami de Rachid.
Et donc après, il a eu un local ici, rue des Tables Claudiennes, et lui faisait à la fois des répétitions, mais des soirées également. Et c'était des occasions de faire du prosélytisme pour les musiques qu'il aimait bien, et de passer ce mélange de musique orientale et de rock qu'il a utilisé dans sa musique aussi. Il faisait ça en DJ, parce que c'était un bon DJ. Dans ses années 80, il a justement, dans le même état d'esprit, fait une émission régulière sur Radio Bellevue, où il venait passer ses morceaux favoris, et c'était du clash qui enchaînait Oum Kalsoum, et c'était très représentatif de ce qu'il aimait faire entendre. Le mec aimait vraiment la musique, dans le sens où on cherchait à savoir, quand on entendait un super morceau, on se rendait compte d'un seul coup que ce n'était pas écrit par par les Cramps ou par les Clash ou je ne sais quoi, et que c'était un vieux titre du répertoire jamaïcain de la fin des années 50, début des années 60, ou du rhythm and blues, où on pouvait remonter à la source comme ça et découvrir des choses. Et il expliquait donc volontiers le tracé de la musique.
Carte de séjour, il se produisait donc je crois au départ beaucoup dans le réseau associatif, militant de Lyon.
On avait deux circuits, circuit rock et circuit associatif. On rencontre les gens qui militaient et on a vu quand ils faisaient leur meeting, il n'y avait pas assez de monde. Alors on a fait du donnant-donnant. On joue pour vous, mais par contre vous prenez en charge la sono, les trucs comme ça, et on joue pour vous sans cachet. Comme ça, ça attire du monde. C'est ce qui était marrant, c'était surtout des filles maghrébines qui animaient ces réseaux-là. C'est en mode banlieue, les jalbes. Ils se battaient surtout pour les droits au niveau d'immigration, pour que les immigrés aient plus de droits, pour voter pour les municipales, des choses comme ça.
Rachid m'a raconté ses premières scènes liées à des mobilisations des jeunes arabes de Lyon et sa banlieue, les jalbes. C'est ces espaces-là qui ont été, pour le militant qu'il était, mais aussi pour l'artiste, ça a été ses premières scènes, ses premières opportunités artistiques. On ne lui a pas ouvert les bras en disant bah, « tu veux faire du rock, vas-y, viens, fais les scènes de rock, fais les tremplins, des francopholies de La Rochelle ». C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est comme un cri qui part de ces mobilisations, de ces luttes contre des crimes racistes. Les premiers concerts, c'est Mohamed Diab mort dans un commissariat à Versailles, c'est... d'autres faits divers qui touchent des jeunes arabes en France, c'est la question du racisme dans les quartiers. On est à une époque où de ces quartiers populaires dans la région lyonnaise va émerger des mobilisations sociales et culturelles. Et lui, il est, à mon avis, le fruit de cet alignement des planètes militantes et artistiques.
Déjà, à la base, nous, on avait du mal à signer dans les maisons de disques. Chez les majors, ils nous mettaient dans la musique folklorique, sans avoir écouté nos maquettes. Et après, notre manager, donc notre premier manager, quand il a vu ça, il s'est battu, à un moment donné, il a dit j'en ai marre. Il a monté son label indépendant, il a produit les premiers albums de Charles Shooter, il a travaillé pour les maquettes de téléphone, et il a sorti un maxi 45 tours avec Atit, Semro, La Moda, Zubida et Fnal. À part Zubida, c'est le thème qu'on a abordé, c'est le manque de liberté qu'ont les maghrébines. En général, les femmes musulmanes. Le carcan patriarcal, quoi. La famille, tout est fait d'avance par les parents. Le mariage, tout ça. Elles demandaient de l'aide de tous les côtés, vu que toutes les portes se fermaient. Et ça se termine par un suicide. La Moda, ça parlait du thème des gens qui sont obligés de perdre leur identité pour rentrer en boîte de nuit. C'est un des cheveux en blond, s'appelait Michel. Ça allait jusqu'à que les Maghrébins, les jeunes Maghrébins, portaient l'étoile de David. Un pendentif, il met en or. Puis il ouvre la chemise. M'appelle David. Ah, c'est bon, tu peux rentrer. D'être accepté, quoi, par rapport aux différences. Comme par exemple, nous, on a été les premiers artistes maghrébins à se produire avec notre propre nom.
Bon, oui, une chanson particulière que j'adore parce qu'elle a vraiment, en termes d'arrangement et de sonorité, elle a vraiment, c'est vraiment le début de cette alchimie, ce qu'on aurait pu appeler du rock oriental ou je sais pas trop en fait finalement, parce que c'est une vraie invention. Et en termes de texte aussi, c'est une chanson qui s'appelle Khokhomani.
Moussa Mokrane, chanteur du groupe Zebda et membre du Tacti Collectif.
Shkoligal, shkoligal, les kahlouch, selouch. Shkoligal, shkoligal, les khokhoyanatro. Qui a dit louche, c'est louche, les noirs, c'est louche. Qui a dit les rojo, il y en a trop.
La rojomani, si je devais la définir, bah c'est les arabes, les beurs, les arabes d'ici. Et les rojo, c'est. On dit aussi les rojoto pour parler d'espèce d'arabe un peu bancal que nous étions. On n'était pas validé ni ici ni là-bas, c'est-à-dire qu'on n'était pas, on était trop français pour être bien vu là-bas, et on n'était pas assez français pour être bien vu ici. On avait des manières, des façons d'être qui étaient ce pays imaginaire de la Romanie, c'est-à-dire qu'on était, on disait à l'époque le cul entre deux chaises. On était presque une anomalie, et c'est cette anomalie, la Romanie, c'est une espèce de truc qui pouvait pas se diluer, une espèce de gens qui pouvaient pas se diluer dans une assimilation à la française, qui était aussi porteur d'une mémoire, d'un trauma, de langue, de religiosité, pas pour dire de religion, du henné sur les mains, du ramadan une fois par an, espèce de façon d'être, de s'habiller. Moi, j'ai des copines qui avaient honte de leur mère qui avait des robes kabyles. Et je pense que lui, la Romanie, l'a bien expliqué, c'est-à-dire que c'est la créolisation, si vous voulez, de ces enfants d'immigration, qui n'allaient pas arrêter d'être des arabo-berbères, quoi. Ils allaient continuer à leur manière. C'est cette génération-là. Ils racontent nos problèmes d'enfants d'immigrés. Et lui, il le chronique sur des riffs de guitare qui empruntent autant l'influence anglo-saxonne, c'est ce que raconte la Romanie, la chanson, et à ses influences maghrébines et moyen-orientales. C'est ce mélange-là qui fait qu'on s'identifie à ce qu'il raconte, ce qu'il chante, la manière dont il le fait.
Dans cette chanson, il jette des fils et on doit s'inventer pour que tout ça reste serein. Et s'inventer, c'est pas seulement dire je suis arabe, je suis français ou je suis toulousain. C'est en fonction de nos histoires, de nos envies, de nos goûts, on doit créer ce que nous sommes. Et c'est ce qu'il propose directement dans Romanie, finalement. Il invente un mot. Romani, c'est une danse. Et cette danse, elle dit, ben, tu vas danser sur Otis Redding, tu vas danser sur Jimmy Cliff, sur une Kalsoum, et tu vas écouter du rail aussi, et tu vas écouter du rock.
Pendant que Carte de séjour peaufine les contours de son rock syncrétique, dans les banlieues lyonnaises, la colère gronde. À Vénissieux et Vaux-en-Velin, il y a les premières émeutes, les rodéos et les voitures brûlées. De ce ghetto urbain émergent en 1983 des revendications, qui se structurent au sein d'associations. Et puis, il y a cette idée de traverser la France, tous ensemble, à pied. Il y a cette grande marche pacifique pour l'égalité et contre le racisme. Rengainés, on arrive. La chasse est fermée, clament les jeunes, alors que 42 crimes racistes ont eu lieu en France de 1981 à 1983. Marcher pour une société plus égalitaire. Marcher pour les droits civiques.
Ils n'en sont pas de la marche pour l'égalité parce qu'ils sont en train d'enregistrer leur album Romanie, justement. Mais ils sont compagnons de route.
Philippe Agnew, historien.
Mais suite à la marche pour l'égalité, qui est une co-création du Parti Socialiste, qui va emmener une grande partie de la jeunesse de France sur le terrain d'une forme de militance. Carte de séjour se produit lors du concert de la Concorde du 15 juin 1985. C'est l'occasion pour eux d'étrenner sur scène la reprise de Charles Trenet. Et c'est un moment extraordinaire parce que Rachida, face à un auditoire d'environ 100 000 personnes, commence à cappella. Et il entonne le morceau comme un vieux blédard, hein, donc un vieux travailleur émigré algérien, avec l'accent très exagéré du bled.
France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Non mais ça vous va ou pas? Vous m'avez compris, il y en a qui grincent des dents, hein? On touche au patrimoine, hein? Mais c'est le nôtre aussi, hein? Oui ou non? Si vous êtes là, vous êtes d'accord avec nous, merde! Oui? Charles Trenet, on peut chanter, nous? Ouais? Non? Il y a des arabes qui disent non!
Il revient à ma mémoire, des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire, des souvenirs familiers.
C'est la première fois que Carte de séjour, hormis l'inclusion ponctuelle dans certaines de leurs paroles de mots français, et là chante une chanson française. Et puis tout le monde a bien reconnu que c'était un monument. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui incarne une certaine idée de la France, en particulier une certaine idée de la résistance française, puisqu'elle est composée en 1942. Donc quand Trenet compose cette chanson, il y a dans l'esprit de Trenet la nostalgie et la mélancolie d'une France d'avant l'occupation, d'une France magnifiée, d'une France carte postale, Sauf que cette chanson, tout le monde l'avait dans un petit coin de sa mémoire, mais elle était devenue un peu obsolète. Et eux, ils procèdent à un rapt, à un détournement. Donc ce moment-là est très très fort. Mais en même temps, ça va aussi les emmener sur un terrain qui n'est pas évident, qui est celui après de la récupération, c'est-à-dire qu'ils vont devenir en quelque sorte les porte-parole. Et malgré eux, c'est là que je parlais d'instrumentalisation, éventuellement par des organisations comme SOS Racisme, par le pouvoir socialiste. Il y a tout un débat sur le code de la nationalité, et l'ancien ministre de la Culture, Jack Lang, saisit l'opportunité qui lui est faite à travers le succès populaire de cette chanson Douce France revisitée par Carte de séjour, la possibilité d'avoir une tribune, et il fait distribuer le 45 tours à l'Assemblée nationale. Il invite Charles Trenet à venir l'accompagner. Carte de séjour refuse l'invitation, et à partir de ce moment-là, ils vont prendre leur distance avec une certaine forme d'antiracisme moralisateur, ce qui ne les empêchera pas d'être toujours présents sur le terrain des luttes des populations immigrées ou d'autres combats. Mais c'est vrai que ce moment-là, c'est à la fois, ça les emmène très très haut au Panthéon, et en même temps, c'est aussi pour eux une prise de conscience de l'instrumentalisation qui peut être faite par ceux qu'on appellera les porte-paroles du mouvement beurre.
En 89, le groupe se sépare et Rachida quitte Lyon. Rupture sentimentale, écrira-t-il. Et j'avais l'impression de tourner en rond. J'avais envie de monter à Paris, comme on dit en bas, en province. Parce que je pensais qu'il n'y avait qu'à Paris que je pourrais tenter des choses nouvelles.
Rachid en solo.
Rachida se lance dans une carrière solo et dope sa musique. Encore plus de rock et de l'électro. Son premier album, Barbès, sort en 91, en pleine guerre du Golfe.
Si demain, moi, je me mets à chanter les merguez à la manière blond-blond ou à la manière Lynn Monti, etc., ça pourrait marcher. Parce que, bon, on reste dans le contexte, bic. Mais à partir du moment où moi, donc arabe, etc., faisant de la musique un peu sophistiqué, etc., on dit, aïe, attention, c'est un peu dangereux, c'est danger, donc ça passe pas. Mais c'est vrai que la musique arabe, ça ne passe pas en France, elle passe nulle part. Ou bien elle passe dans les ghettos, ou bien dans les soirées, la quinzaine de l'immigration, ou bien halte au racisme, ou bien des trucs comme ça, ou aux galeries de l'immigration, quoi. Ça reste toujours le côté un peu ethnologique. Enfin, Barbès, c'est plutôt un hommage à des quartiers comme ça. On parle beaucoup de world music. Enfin, moi, je dirais plutôt que c'est de la musique d'import-export. Parce que world music, ça, c'est le côté branché, snob, etc. J'ai parlé de ce quartier parce que c'est un peu le grand-père de tout ce qui se passe à l'heure actuelle, au niveau musique, au niveau même cinéma, littérature, etc. Et ce que je voulais dire par ce morceau, c'est la disparition de ces quartiers-là.
À partir de 1993, Rachida collabore plus activement avec le musicien anglais Stevie Leage, qui a déjà produit Roro Mani. Il y a de la musique électronique des années 90, ambiante et électro, et il amène avec lui ses machines et ses techniques de mixage.
Comment est-ce qu'il fonctionnait, toi qui as été musicien avec lui longtemps? Et comment est-ce qu'il façonnait ses albums? Comment est-ce que ses idées prenaient corps musicalement?
En écoutant beaucoup de musique. Il en écoutait énormément à longueur de journée, à longueur de nuit. Il se nourrissait de tout ce qu'il pouvait. En fait, dès qu'il a découvert YouTube et des tablettes, etc., c'était encore pire là.
Yves Aouizerat, musicien, compagnon de route de Rachida.
Donc en fait, sa manière de fonctionner, c'était de nous faire écouter des choses. Et après, de nous faire comprendre qu'il fallait associer tel riff avec telle chose dans l'ambiance, quoi. Et donc, de ce fait, il y a quelque chose qui se crée automatiquement. Et il était très cultivé aussi, il lisait énormément. Il puisait énormément là-dedans. C'est un gars qui pouvait dire toute une journée, toute une nuit, hein, sans relâche. Hein.
Est-ce qu'il y a selon toi un son ta et comment est-ce qu'il s'est fabriqué au cours des années?
Le son ta pour moi c'est Rachid Taha et Steve Village. Avec évidemment l'apport de tout ce qu'on donnait nous dans les maquettes et dans les préparations de titres. Mais il avait une idée bien précise et Steve a bien su faire cette synthèse entre l'apport électronique et l'apport de musiciens purs et durs. Et du coup, ils ont inventé un son. Il est fait de percussions, de riff rock, d'électronique, de répétitions et de textes un peu brûlants de la part de Rachid. D'une certaine manière, ils inventaient une nouvelle manière de faire du son. C'est pour ça qu'on sent, même dans des titres traditionnels, un apport de fréquence électro. En fait, il a su puiser dans la musique électronique des fréquences ou des séquences qui appuyaient son côté porte-parole. Ou porte de la chapelle, comme vous dites. Voilà. Voilà. Le premier essai, c'est voilà que ça recommence.
Voilà.
Qui est un titre complètement électro et avec un texte revendicateur.
Voilà que ça commence. Partout sur la ville de France. Voilà que ça commence. Partout ils avancent. La leçon n'a pas suffi. Faut dire qu'à la mémoire on a choisi l'oubli. Partout les discours sont les mêmes. Étranger, tu es la cause de nos problèmes. Moi je croyais que c'était fini. Mais non, ce n'était qu'un répit.
On s'est rencontrés dans un after, je sais plus lequel, à 8h du matin, et moi j'aimais bien la musique orientale, la musique électronique, mais j'aimais la musique de façon générale, j'en ai fait un peu mon métier avec les Rosa Bonheur aussi, et le Pulp, le club.
Mimine, amie du chanteur et gérante des Rosa Bonheur à Paris.
On s'est rencontrés et je lui ai chanté quelques phrases de Oum Kalthoum, ça l'a surpris, de là une amitié est née, mais direct très rapidement. C'était le moment où justement on a écouté beaucoup de musique électronique ensemble. Bon, il en écoutait déjà avant. De fait, il est tombé dans notre groupe. Et nous, notre groupe, c'est la bande de filles qui mixait avec des graphistes, avec des vidéastes, etc. Et c'est très peu de temps après, on a eu les clés du Pulp, qui est à la base une boîte de lesbiennes. Et c'est vrai qu'il y a une diversité avec tout l'univers de Rachid, le nôtre, qui a bien fonctionné. Hein. C'est Rachid qui m'a poussé à prendre ses clés. Donc on était vraiment à fond dans la musique électronique. Et c'est le moment où il a produit l'album avec la pochette comme Madonna, le ciel, avec la photo de Mondino. D'ailleurs, on est allés ensemble faire la photo chez Mondino, on n'avait pas dormi. C'est Rachid en blonde. D'ailleurs, on l'appelait la blonde à ce moment. Olé, olé. En tous les cas, les nuits et les jours, il fait quand même. Il n'y avait pas beaucoup de frontières entre la nuit et le jour. Hein. C'était une époque assez créative, riche en événements. Il était quand même déjà. Son producteur, c'était Steve Village. Steve Village, c'est quand même quelqu'un qui a fait beaucoup de musique, un précurseur de musique électronique. Hein, qui a joué avec System 7, ils avaient joué à Borealis. Borealis a été les premiers grands after de musique électronique. Ça s'est marrant dans les arènes de Nîmes où System 7 avait joué.
Rachid m'a contacté en disant qu'il aimerait que j'applique ces techniques de programmation sur ces nouveaux morceaux. C'est comme ça qu'on a travaillé ensemble pour encore 15 ans et 9 albums.
Steve Village, musicien, producteur.
Rachid aimait bien la fête et le délire. Ça s'est bien connu et donc il prenait plaisir d'aller dans les clubs et dans les rêves. Mais En même temps, Rachid était quand même un chanteur de texte, et ça, ça ne s'adapte pas très bien avec le techno, qui est plutôt une musique instrumentale. Donc pour moi, Olé Olé, à part que le morceau Non Non Non, plus comme un flirt avec la dance music. Certainement, avec mes techniques de réalisation, un bon goût de dance music dans les disques de Rachid, mais pour moi, la chose la plus importante, c'est l'intégration de la programmation avec les instruments live, les instruments joués. Et avec ses sensibilités de DJ et sa connaissance large de la musique arabe, Rachid possédait une grande faculté pour trouver les sons bien originaux et utilisables.
Est-ce que l'aspect politique et toutes ces prises de position a masqué la dimension proprement artistique et musicale de son travail, selon vous?
Oui, il aimait bien le débat, mais la migration sont des sujets assez centraux dans les textes et l'histoire de Rachid. Et bien sûr, il y a Raya, qui est sa chanson la plus célèbre, est totalement sur le sujet de l'immigration et les émotions des émigrants. Une de ses idées importantes était de faire une reprise de cette chanson, Il y a Raya, de Darman al-Harachi. Et il voulait que je le fasse avec une programmation dans le style house music et danse. Et moi, j'ai plaidé un peu pour une approche plus traditionnelle, mais Rachid a insisté. Donc à la fin, on est arrivé à un bon compromis. Et le house groove est présent, mais c'est pas mis en avant. C'était une bonne évolution, une définition même de notre style musical, mais la maison de disques n'a pas compris de tout. Il ne voulait même pas l'avoir sur l'album. C'était fou.
Sortie de D1 en 98, il avait déjà proposé quelques reprises ici et là, mais je pense que son projet patrimonial qu'il a porté à la fin des années 90, on est autour aussi de 1, 2, 3 Soleil, c'est la fin des années Rail, on l'a parfois associé à ça, mais bon, c'est un rocker. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui, il a été un artiste de la fusion. Cet artiste de la fusion qui a eu des incursions, d'abord le rock, ensuite l'indie pop, la techno, l'oriental. Enfin, il a été un artiste vraiment inclassable. Il s'est interdit aucun mélange. Même si, on va dire, son épine dorsale, c'est le rock, il s'est interdit aucun mélange. Il a eu un discours assez, poussé à la moment de la promotion de son disque D1, où il explique que c'est la musique de ses parents. Il a été vraiment pionnier dans cette volonté de transmettre et d'avoir ce souci de la transmission. D'un point de vue artistique, il n'avait aucun intérêt à faire ce qu'il a fait. C'était pas pour relancer une carrière qui serait morne. Il était vraiment dans une démarche qui lui tenait à cœur et qui était presque une réparation. Mais on a grandi avec lui, en fait. C'est assez intéressant parce que cette demande sociale de patrimoine, elle va être suggérée et initiée par ça, par lui, par ce disque-là.
Ces chansons, la plupart, on les connaissait parce qu'elles étaient la bande originale de nos foyers familiaux, dans la vie de nos parents, principalement. Donc c'est des musiques qu'on entendait beaucoup à la maison ou dans la voiture, lors des voyages vers le bled notamment, vers l'Algérie. Ce qui nous a particulièrement touchés, c'est la façon qu'a eu Rachid de se les approprier. Parce que pour nous, on prend conscience à ce moment-là que la transmission c'est important, mais l'appropriation est essentielle. Et donc c'est comme ça qu'on le reçoit, c'est-à-dire que tout de suite on perçoit, en écoutant les versions de Rachid, que c'est possible et que la modernité est là, que c'est un patrimoine en fait, un patrimoine qui peut continuer à se transmettre. Alors nous on a kiffé particulièrement hein, cette époque-là, Diwan et ces projets-là. Parce que voilà, c'est des morceaux qui font partie de nos histoires. Je dirais même qu'on est passé par des phases de rejet. On a eu à l'adolescence des moments où on dit « mais c'est plus possible, je ne peux pas entendre ça ». On ne pouvait pas dire à notre père, par exemple, « t'es, papa, je peux mettre Michael Jackson ?» Non. « Papa, je peux écouter Renaud, je peux écouter Kool & The Gang, Clash, Bob Marley ?» Non, c'est « Ben Hazem, Daman Harachi, El Hasnaoui ». Voilà.
Quand on prend, je vais dire, les deux Diwan, de manière un peu transversale, le volume 1 et le volume 2 de ce recueil de chansons qu'étaient les Diwan, il a su mobiliser à la fois cette chanson de l'exil qui est la marque de fabrique des années immigrées post-colonisation, j'allais dire, je vous dis, années 50-70, 50-80, et élargi voilà, des figures tutélaires comme Oum Kalsoum qui, moi, me saoulait prodigieusement quand j'avais une dizaine d'années, et qui est revenu dans notre panthéon musical. On a pu, j'allais dire, se réapproprier cette musique-là. Bon, parce que déjà, ils ont fait autre chose. Il la rend audible. Il y met son rock, sa verve, son énergie, sa fusion. Quand il prend du Blaouil Houari, de Ahmed Wahbi, il rend hommage à la musique oranaise. Il revient, il revisite la terre où il est né.
Regarde-toi bien dans la glace et réfléchis, c'est important. Tu as choisi une épine, hélas, ce n'est pas une rose de printemps. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Ne compte plus sur ses promesses, elle t'aimera pas même à 100 ans. Elle t'a joué la double face, elle changera à chaque instant.
La première fois que j'ai rencontré Rachid, il a été dans la loge avec un lecteur de cassette Ghetto Blaster qui jouait une musique simple, belle et profonde. Il m'a dit: écoute ça, c'est le blues pur. Le chanteur sur la cassette était Sheikh Mohamed El Anka, largement vu comme le maître du shabi algérien. Et comme notre rapport a grandi pendant notre travail ensemble, nous avons développé dans la conversation l'idée que le Maghreb était un foyer de mélange de musique africaine, moyenne orientale, européenne et celte. Le Maghreb, c'était et c'est encore le carrefour entre l'Europe et l'Afrique. Et ça a produit presque le même genre de fusion musicale que la Nouvelle-Orléans et le sud des États-Unis qui a donné naissance au blues, et au jazz et au rock.
Hey, allez, ensemble!
traverser l'Afrique, l'Europe. Oui, les esclaves, tout ça. Ils ont été. Ils ont passé par Bordeaux, peut-être par Bruxelles, baby. Après, on les a amenés à Haïti. Haïti, ouais. On appelle ça le vaudou. Ouais, le vaudou, ouais. Après, ouais, ils étaient en Amérique, Nouvelle-Orléans. Ça s'appelle maintenant le funk, la soul, le rock'n'roll, le techno, la house, tout ce que vous voulez. Ouais, come on. Hey.
Rachid Bull a réglé la question d'identité des jeunes maghrébins de France très très tôt. C'est lui qui disait français tous les jours, algérien pour toujours, et c'était vraiment sa ligne de crête. Et ensuite, il devient espèce de titi parisien algéro-français qui vit entre plusieurs mondes, en fait. Il était aussi à l'aise dans le kebab du coin que dans le tout Paris, etc. Il était assez à l'aise dans tous les milieux et il n'avait que faire des codes. Et je pense qu'on trouve ça aussi dans sa musique, dans son discours, dans sa démarche. Il se fichait royalement de la manière dont on prenait ce qu'il pouvait dire, en fait. Il disait les choses un peu sans filtre. Et je pense qu'on le retrouve aussi dans son, dans sa trajectoire, tout simplement. Quand vous avez commencé, Rachida, la musique pour vous était un acte politique ? C'est toujours le cas ?
Oui, c'est toujours le cas, oui. Enfin, c'est un acte politique dans le sens où, à partir du moment où il y a censure, à partir du moment où il y a aussi pas d'égalité au niveau de la diffusion, au niveau de la langue, pour preuve, je fais pratiquement que France Inter et pour la radio un peu communautaire. Enfin, j'aime pas trop ce terme-là. Mais c'est vrai qu'il y a encore un réel problème, c'est-à-dire que il y a d'un côté on vous parle de Zidane comme étant le personnage le plus le préféré des Français. Je crois que c'est avec le couscous aussi, on préfère aussi, ouais. C'est le plat préféré des Français. Donc j'ai pas envie d'être un légume, quoi, dans tout ça.
Et il avait ce don-là de pouvoir répondre de manière instinctive comme ça, en faisant rigoler tout le monde sur un sujet qui était des fois lourd de sens, quoi. C'est pas évident, hein, de faire ce qu'il faisait. C'était un mec instinctif, il avait un don de l'improvisation incroyable. Voilà, c'est tout son personnage, quoi. Et il me l'a dit, il l'a appris de la revendication des Black Panthers, etc., de savoir ouvrir sa gueule au bon moment. Mais même à deux mecs qui sortaient des drapeaux, parce qu'en fait, il avait horreur du communautarisme. Donc, il y a plusieurs fois où il y a des jeunes qui sortaient ou des drapeaux algériens, ou marocains, ou tunisiens. Et ça l'exaspérait, parce qu'en fait, pour lui, le public d'une scène, c'est un public qui est ensemble, quoi. Donc, il n'avait pas envie de revendications à travers le communautarisme. Lui, ses racines, il avait un passeport algérien. Donc, pour lui, il était algérien... De fait, quoi. Mais c'était un mondialiste, Rachid, hein. Avant tout, hein. C'est un gars qui était ouvert. On a fait 104 pays ensemble. Le truc qui revenait sans arrêt pendant les discussions, c'est qu'on en a ras le cul de montrer un passeport pour passer une frontière, quoi.
Rachid a toujours eu une culture très très internationale. Pour moi, c'était évident et on va pas le cantonner à un coin de rue alors que sa caisse de résonance, elle est planétaire.
Alain Lannes, tourneur de Rachida.
Je me rappelle une fois où on était sur une émission télé avec Robert Plant. Et à un moment donné, il y a une petite pause et je suis à l'écart. Robert est aussi à l'écart et je l'entends téléphoner à son fils. Et il dit à son fils, hey, Tu vas être vraiment fier de ton père. Devine avec qui je suis. Je suis avec Rachida. Et là, entendre ça sortir de la bouche de Robert Plant, moi qui ai une culture qui est plutôt rock anglo-saxonne, ça pèse lourd. C'est un truc qu'on ne rêvait même pas. Voir des trucs auxquels j'ai pu assister, comme quand on a pris Rock de Casbah. Bon, moi, j'avais appelé à l'époque Mick Jones, puisque j'avais travaillé avec les Clash avant. Et on a fait pour la première fois le Rock de Casbah avec Mick Jones. Ça s'est répété après à plusieurs occasions. Quand Patti Smith a fait son Meltdown, par exemple, à Londres, elle a programmé Rachid à son Meltdown. Il y a toujours eu un truc comme ça. On a eu énormément de portes qui ont été ouvertes par rapport à Rachid, qui n'ont été ouvertes à aucun chanteur français. Point.
M'a demandé si ça m'intéressait de rejoindre le groupe, ben oui, de 92 à 2018.
Hakim Amadouche, musicien, compagnon de route de Rachid Taha.
Nous, on a eu des attentes crochues, vraiment. On avait cette envie de mélanger des choses, de mixer les choses qui nous ressemblaient, quoi, qui nous rapprochaient aussi.
Dans toute sa discographie, est-ce que vous voyez une évolution ou est-ce qu'il y a eu des étapes qui nous permettent de comprendre un peu sa trajectoire là, dans la durée?
Je ne crois pas qu'il y a des étapes. Je crois qu'il y a de l'instinct mélangé à une réflexion du moment. Rachid, c'est une éponge. Voilà, tu veux savoir, c'est une éponge. Tout ce qu'il aime, il l'assimile, il le synthétise d'une manière fantastique, je sais pas comment. Et puis, en collaboration, bien sûr, avec Steve Hillager, donc, et un travail magnifique. Jusqu'à l'avant-dernier disque, il était plutôt plus acoustique. C'était un hommage un peu de loin ou de près à la country. Country à l'envers, je sais pas comment vous dire ça.
Toi, tu fais quoi au mandole là-dessus, alors?
Ben, je fais des interventions un peu arabisantes. Puis, je trouve des arabesques. Enfin, des arabesques, c'est un peu trop, mais il voulait l'idée générale, c'est country, un peu. Mais en même temps, il y a des choses qui arrivent, Om Kulthoum, Elvis Presley, géographiquement c'est là-bas, mais c'est dans sa tête, il y a tellement de pays dans sa tête que ça dégouline d'influence.
Zoom, c'est le titre du nouvel et neuvième album de Rachid Taha.
Et qui fait son grand retour, l'ancien chanteur du groupe Carte de Séjour signe là un album de rebelle entre guitare rock et musique orientale avec un casting de rêve, Brian Eno et même Mike Jones, l'ancien des Clash. Avant vous avec Isabelle Pasquier.
Je zoom sur Home, le ton d'une mélopée. Je zoom.
Avec son manteau de fourrure, de vagabond canaille et sa voix qui a abusé de tout, Rachid Taha fait un retour plutôt inspiré. Le souffle plus court, mais la plume toujours rebelle, il prouve qu'il est toujours le roi du rock'n'roll. Dans cet album, il ose carrément une rencontre entre ses deux idoles, Elvis Presley et Om Kulthoum.
En fait, c'est très proche du côté rebelle, parce qu'à sa manière, elle était rebelle. Le côté déchiré, le côté amour triste, parce qu'elle n'a pas vécu vraiment des belles histoires d'amour. C'est des écorchés vifs, donc évidemment, c'est les Kurt Cobain, les Elvis, les Joe Strummer, les Jimi Hendrix, les Janis Joplin, pour moi, c'est la même famille.
Et vous vous sentez un peu le fils de Presley et d'Om Kulthoum?
Ah oui, non, mais je suis totalement le Caire et Graceland.
Je zoome sur Home, le
dirais que Rachida n'a pas été appréciée à sa juste valeur. Pour plein de raisons. Celle, effectivement, d'un franc-parler, d'une réputation sulfureuse, un peu déglingo, un peu comme ça, ingérable. Aussi parce que la France a un problème avec ses Arabes. Parce que c'est les siens. C'est ces Arabes, c'est pas les Arabes de l'Algérie, c'est pas les Arabes du Maroc, c'est pas les Arabes de la Tunisie, c'est des Arabes de France. C'est un dialogue qui a été « Je t'aime moi non plus ». Je pense que Rachid en a fait les frais. Il racontait souvent qu'il était chanteur français que quand il allait à l'étranger. Il était perçu comme français à Stockholm, à New York, mais pas ici.
Et au Maghreb ?
Il est apprécié. Il est apprécié notamment pour ses diwanis.
Je pense surtout qu'il a eu des a priori assez défavorables en France et que par rapport à ça, on pensait que ce n'était pas par lui qu'un message quelconque pouvait arriver. Moi, ça m'énervait, mais Rachid n'était pas l'arabe de service. Rachid n'était pas juste un trublion qui faisait la fête. Je le mets au même niveau qu'un Nidi, qu'une Patti, qu'un Bowie.
C'est quand même quelqu'un de très fleur de peau, quoi, comme on dit, écorché un peu, parce qu'il a une telle vue du monde tellement clairvoyante que il fait partie de ces personnes qui sont blessées quand ils voient une injustice ou quand ils voient quelque chose. C'est un écorché de la vie. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je crois que c'est le fait d'être comme ça, tellement sensible, tellement l'émotion, l'émotivité, je ne sais pas comment dire ça. Moi, je le vois comme ça. Et avec tous ces... toutes ces folies, il peut être très dur, comme il peut être aussi très tendre, très amoureux. Et aimer la vie, les gens. Ouais. Et il peut être très dur aussi.
Est-ce qu'il a influencé beaucoup? Je dirais que, au-delà de l'influence musicale qui a été la sienne, de son esthétique, je pense qu'il a dit quelque chose de très fort seulement en montant sur scène. Il a dit, vous aussi vous avez le droit de le faire, et vous avez le droit de le faire comme ça. Et à partir du moment où il a brisé toutes ses chaînes et tous ses tabous, où il ne fallait pas soit être dans la geste immigrée, classique, avec la mandole et chanter comme les aînés, soit faire tout à fait autre chose, la variété française, du rock. Il a dit non, vous pouvez faire les deux en fait, vous pouvez mixer. Et je pense que ce champ des possibles qu'il a ouvert fait qu'il a rendu possible, bah oui, Zebda, dans un autre genre Faudel, dans un autre genre... du dub, du rock et de l'arabe. Enfin, il y a eu plein de fusions comme ça qui ont été possibles. La seule frustration qui est la mienne, c'est où sont les filles, où sont les femmes. C'est que j'attends la relève féminine de ce genre-là.
Certainement, Rachid a eu un impact majeur sur la musique arabe, à la fois au Maghreb, et aussi dans la scène world music. Il a été célébré comme un grand personnage. Son côté rocker a donné une sorte de morsure à la musique arabe, quelque chose de vraiment spécial. Mais quelquefois, il souffrait d'être trop rock pour les Arabes et trop arabe pour les rockers, si vous comprenez.
À la mort de son manager, Francis Kertékian, Rachid Taha traverse une période de flou. Et puis, il y a une maladie génétique, diagnostiquée à l'âge de 27 ans, dont il ne parlait jamais, lui qui pourtant parlait de tout. Et puis, des idées à nouveau, des maquettes, un voyage à Bamako qui est comme un déclic, et l'envie d'un dernier album, sur lequel il travaillait comme un fou, mais qui se finira sans lui. Je suis africain.
Il y a eu 2-3 ans disons de durs moments, parce que évidemment financièrement c'était plus la même chose et il avait plus de maison de disque. Rachid s'est retrouvé dans une période de flou et artistique et d'avenir qui était pas cool pour lui, quoi. Alors en fait, les 2 ans et demi où moi je suis revenu comme manager, pour moi, évidemment, je peux pas enlever la douleur que j'ai d'avoir perdu Rachid, parce que c'était un être exceptionnel et qui était plus qu'un ami, c'était devenu comme un frère de sang. Mais je l'ai vu dans de sales états quand je l'ai récupéré, quoi, et ça m'avait fait beaucoup de peine. Moi, ce dont je suis le plus fier, c'est de surtout qu'il soit remonté sur scène et que chaque concert était un bonheur pour le public. Et surtout d'avoir permis à Rachid de l'avoir accompagné dans la création de cet album. C'était important. Mais malheureusement, les choses de la vie font que... Donc, ben c'est douloureux. شفتك قبل ما تشوفك عيني اللي شفتك قبل ما تشوفك عيني انت عمري انت حياتي وانت عمري
Donc on pouvait dire que enfin, oui, il a été certainement assez unique dans son genre. En terme français, peut-être un peu comme Serge Gainsbourg ou quelqu'un comme ça. Et quand il a parti, il a laissé un très grand trou. Il est irremplaçable, un grand être humain.
Parfois je m'en fiche, j'adore Marlène Dietrich.
Rachid Tahar, chanteur crossover. Avec Robert Lapassade, Mohamed Amini, Philippe Ani, Naïma Yahi, Moussa Mokran, Yves Aouizerat, Stevie Lage, Mimine, Hakim Amadouche et Alain Lahana. Archivina, Marine Descamps. Prise de son, Sandrine Malon. Mixage, Manuel Couturier. Coordination, Christine Bernard, avec la collaboration de Daphné Abgral. Merci à Bintou et Rudy Aboab de Radio Nova. Merci à Mokhtar Amini. Un documentaire de Péroline Barbet. Réalisation Vincent Deck.
Je t'aime d'amour. Je sais que c'est bateau. Je t'aime tous les jours. Et là, je suis beau.
Vous pouvez réécouter ou télécharger cette émission sur le site de France Culture, un site préparé et enrichi par Daphné Abgral et Suzanne Saint-Cast.